Et tournez avec moi dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 8. Nous lirons les versets 1 à 11. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te remettre, Seigneur, cette partie de l'enseignement qui provient de ta parole. Seigneur, nous voulons vraiment que tu parles à nos cœurs et que, à travers ton enseignement ce matin, à travers ta parole, eh bien, non seulement nous accumulions de la connaissance, mais que ce que nous entendrons puisse aussi nous porter à mettre en pratique, Seigneur, cet enseignement que nous recevrons de toi. Seigneur, que ton esprit agisse dans chaque cœur ici présent ce matin, afin que quand nous sortirons de ce lieu, Seigneur, eh bien, nous puissions tous avoir la certitude que tu nous as parlé à chacun et ce sans exception. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, un des enseignements de ce passage, c'est de nous amener à reconnaître que nous sommes tous coupables de péché, que sans le pardon de Dieu, nous sommes tous condamnés, et que nous devrions user de prudence avant de porter un jugement sur qui que ce soit. Alors, cela ne veut pas dire que nous devrions être tolérants et ou excuser le péché lorsque les gens vivent de façon contraire à la parole de Dieu, mais que notre attitude en ce qui concerne le péché devrait être différente en correspondre à celle que Paul mentionne dans Galates, chapitre 6, verset 1, lorsqu'il écrit, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous tous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prenez garde à vous-même, de peur que vous ne soyez aussi tentés, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. » Et ça nous rappelle aussi le passage en 1 Corinthiens 11, lorsqu'on prend la Sainte-Cène, où Paul nous demande de nous examiner soi-même. Les Écritures nous enseignent clairement que nous n'avons pas à nous juger les uns les autres. On a Jésus qui en parle dans le sermon sur la montagne, on a Jacques qui en parle, et on a aussi Paul qui en parle. Et rappelons-nous que Jésus, dans Matthieu chapitre 7, verset 24, demande à la foule de ne pas juger selon les apparences, mais selon la justice. Et c'est ce que Paul parle lorsqu'il écrit, tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14-15, parce que bon, si on lit verset 14-15, ou si on lit Matthieu 7, 24, on a l'impression que la parole se contredit, puisque la parole nous demande de ne pas juger. Et Jésus nous dit, là, finalement, après avoir dit de ne pas juger, nous dit de ne pas juger selon les apparences, mais de juger selon la justice. Et Paul, il nous dit, lui, ben le chrétien, celui qui est spirituel, il peut juger de tout. Alors, la parole, elle ne se contredit pas. C'est quoi le problème ici? 1 Corinthiens 2, 14, 15. Le 14, il dit, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est-à-dire, comme Jésus vient de dire, on peut juger selon la justice. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Et pourquoi personne ne peut le juger? Parce qu'il juge selon la parole. Et si Dieu se trompe pas, et si Dieu dit toujours la vérité, on a le droit de juger les gens selon la parole, mais avec douceur, dit l'apôtre Paul. Pas avec un bâton pour frapper les gens et les massacrer davantage, ou les assommer davantage, mais quelqu'un est en adultère, on a le droit de lui dire, écoute, t'es dans le péché, quoi. T'es dans le péché. Et on a le droit de prendre un temps avec elle. On a le droit de saisir l'occasion pour l'amener au Seigneur, mais pas pour la condamner, dire, écoute, il n'y a plus d'espérance pour toi, t'as commis l'adultère, c'est terminé, écoute, le ciel t'est fermé à tout jamais. Ça, c'est selon mon jugement à moi, et la parole me défend de juger à partir de mon propre jugement. Parce qu'en fait, quand vous y pensez comme vous, frère et sœur, mon jugement, il vaut pas plus que le vôtre, et votre jugement, il vaut pas plus que le mien. Le jugement qui est supérieur à tous ici présents, c'est celui de Dieu. Dieu juge ce qui est bien, Dieu juge ce qui est mal, et il nous dit comment agir en fonction des erreurs, en fonction des fautes, en fonction des péchés des uns et des autres. Et Paul nous dit, dans Galates chapitre 6, versets 1 à 4, que quand on reprend un frère, quand on reprend quelqu'un qui a été pris en faute, c'est de le reprendre avec douceur. On reprend pas dans le but d'excommunier les gens, on reprend dans le but d'amener les gens à être restaurés et aussi à être réconciliés avec Dieu. Et en gardant en tête l'esprit de la croix, je pense que c'est un passage ici dans Jean chapitre 8, les versets 1 à 11, eh bien, n'enseigne pas à juger ou à ne pas juger, mais qu'il vise plutôt à nous transmettre des informations sur la façon dont nous pouvons reconnaître des gens qui sont mal intentionnés et ceux qui visent sincèrement la réconciliation et la restauration dans la vie des gens. Et moi, je trouve que c'est un passage extraordinaire que Jean a conservé pour nous montrer, finalement, nous qui fonctionnons tellement par les apparences, nous montrer que Dieu regarde au cœur. Quoi. Dieu regarde au cœur. On peut dire de belles paroles, mais dans notre cœur, on peut haïr les gens, quoi. Il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'ils m'aimaient, mais je pense qu'ils priaient pour qu'il m'arrive des malheurs dans ma vie. Dieu regarde au cœur. Et moi, je pense que c'est un texte extraordinaire pour nous, chrétiens. Dieu regarde, même si on est chrétien, Dieu regarde au cœur. Et si on doit juger, eh bien, c'est à partir de la parole de Dieu. Et toujours de se mettre à la place de la personne qu'on doit reprendre. Si c'est nous qui devions être repris, de quelle façon on aimerait être repris? Et le Seigneur, ici, nous donne un bel exemple de quelle façon on doit reprendre les gens lorsqu'ils ont chuté. Ce qui est extraordinaire aussi dans ce passage-là, et c'est le premier point que j'aimerais faire ressortir, c'est que les gens mal intentionnés ont un cœur insensible face au malheur des autres. Pourquoi? Parce que leurs motifs ne sont pas purs quand ils veulent les reprendre. Ils sont insensibles. Quand vous regardez les pharisiens, là, ils sont sans pitié pour cette femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Mais si on pouvait ouvrir le cœur des pharisiens et mettre en lumière tous les péchés qu'ils ont eus dans leur cœur, sans être passés à l'action, ils avaient peut-être commis l'adultère plus souvent que cette pauvre femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Jésus dit, qu'est-ce qu'il nous dit? La loi dit que, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est le cœur, Dieu regarde au cœur. La religion avec Dieu, c'est la religion du cœur. C'est les pensées. Parce que car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées qui nous poussent à commettre le mal. Regardez les versets 3 et 4. Les scribes et les pharisiens exposent publiquement cette femme devant la foule du temple, dans le temple. T'es pas obligé de le faire, hein? Mais ils vont exposer le péché de la femme dans le temple devant tout le monde. Ils veulent ainsi démontrer la position d'autorité qu'ils occupent et ils vont proclamer haut et fort son péché à tous ceux qui étaient présents. Considérez l'apparence extérieure des scribes et des pharisiens dans ce texte. Ils étaient habillés sur leur 36, habillés de façon impeccable. Leurs vêtements étaient pressés avec précision. Les bords de leurs manches et leurs robes mesuraient exactement la bonne longueur qu'il fallait. Ils portaient de larges phylactères et des franges très longues en bordure de leurs robes, sur lesquelles étaient attachés des grains de prière, un peu comme les chapelets qu'on a aujourd'hui, afin de pouvoir être reconnus comme étant des hommes de prière. Parce que chaque grain de chapelet, eh bien, ça démontrait que c'était un sujet de prière pour lequel il priait. Alors, un rosaire, un chapelet, dans le catholicisme, on appelait ça un rosaire, un chapelet complet. Il y avait 10 Notre Père, un Je vous salue Marie, 50 plus 10, ça fait 60. Alors, ça vous fait peut-être 60 sujets de prière à faire, quoi. Et là, vous passez pour un homme très pieux. Et il portait ces choses-là, il se faisait une fierté de porter ces grains de prière pour montrer, et on en rajoutait des grains, on en rajoutait pour montrer jusqu'à quel point ils étaient soucieux du sort des autres et combien ils priaient pour leur prochain. Mais tout ça, c'était de l'apparence, quoi. Leur cœur n'y était pas. En surplus de toute cette décoration qui ornait leurs vêtements, ils avaient aussi une chose, ils avaient des pierres dans leurs mains. Ils avaient des pierres dans leurs mains, ou du moins, ils avaient des pierres à leur portée, à la portée de leurs mains, prêts à condamner quiconque ne rencontrait pas leur idéaux religieux. Maintenant, comparons cela avec Jésus-Christ. Ici, selon les Écritures, Jésus, il est écrit que Jésus s'identifiait avec le commun des mortels. Il s'est dépouillé en devenant semblable à nous, nous dit la parole. Et il va montrer de la compréhension à l'égard des ignorants et des égarés spirituels, puisqu'il a été exposé lui-même à bien des faiblesses, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il n'avait rien sur lui qui le distinguait des autres, aucun symbole qui démontrait qu'il était un homme de prière et qu'il obéissait à Dieu. Non, rien de tout ça sur Jésus. Mais il démontrait qu'il aimait Dieu, par l'obéissance qu'il portait à sa parole. Et Dieu confirmait par des miracles, des prodiges, des signes et des guérisons qu'il manifestait à travers Jésus-Christ. Même si nous ne savons pas exactement ce qu'il a écrit avec son doigt, nous savons une chose, le texte nous dit ici, verset 9, que son attitude a piqué au vif la conscience des religieux et que cela a amené de l'espoir chez la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. En d'autres mots, frères et sœurs, Jésus, ici, va remplacer une scène de jugement et de mort qui devait avoir lieu par une scène de pardon et d'espoir. Et c'est ce qu'on est appelé, je pense, à faire, je suis convaincu, auprès des pécheurs. Il a réécrit l'avenir de cette femme en lui donnant la certitude que son passé, aussi bien que son présent, était toujours couvert par la miséricorde de Dieu, car elle savait qu'elle avait péché et qu'elle avait besoin d'un sauveur, cette femme. D'un autre côté, ceux qui se tenaient là devant elle, tenant des pierres dans leurs mains, ils avaient perdu de vue depuis longtemps qu'ils n'appartenaient pas au royaume de Dieu, étant incapables de manifester la miséricorde de Dieu à l'égard du pécheur, parce qu'en fin de compte, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, le pardon occupe toujours la première place. Vous êtes amen à ça? Toujours. Il y a deux choses concernant le pardon. Il y a ne pas vouloir pardonner et ne pas être capable de pardonner. Et dans le royaume de Dieu, le pardon occupe toujours la première place. Imaginez ici pendant un instant la scène. Jésus est assis dans le temple, il est en train d'enseigner les gens. Lorsque soudain arrivent en trombe les scribes et les pharisiens. Et gardez à l'esprit que les scribes et les pharisiens étaient les gardiens de la loi, ceux qui étaient supposés représenter le témoignage de Dieu sur la terre. Ils viennent voir Jésus et là, ils sont contents de lui citer la loi dans Deutéronome 22-22, passage qui faisait référence à la condamnation que méritait, une condamnation à mort, que méritait finalement une personne pour avoir commis l'adultère. Et là, ils vont demander à Jésus, et ça c'est subtil, hein, et il y a juste Dieu qui pouvait les coincer, quoi. Et là, ils vont arriver et ils vont demander à Jésus, hey, « Jésus, est-ce qu'on doit obéir à la loi? » C'est fort, quoi. Comme si Jésus, si par compassion, est-ce qu'on peut désobéir à la loi et le laisser aller? Sans lui pardonner, bien sûr. Le but de Jésus, Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour accorder le pardon, sauver et pardonner les pécheurs. Et ça, c'est l'étape que Jésus n'échappera pas à Jésus. Jésus, est-ce qu'on doit obéir à la loi, nous? C'est ça, en fait, le texte. Hein? C'est ce qui est écrit dans le texte. Hein? C'est pas moi qui l'invente, quoi. Même s'ils cherchaient à coincer Jésus à première vue, leur requête semblait justifiée. Jésus, devons-nous obéir à la loi? Hein? C'est ce que le texte dit, hein, dépendant de votre version. Et en soumettant ce problème publiquement à Jésus, il couvrait de honte cette pauvre femme dans le but de préserver leur réputation, afin de démontrer jusqu'à quel point ils obéissaient à la loi, jusqu'à quel point il détestait le péché et qu'il voulait que justice soit rendue. En apparence. Toujours en apparence. S'ils avaient été vraiment soucieux de justice, ils auraient exhorté cette femme lorsqu'ils l'ont prise en flagrant délit d'adultère à se repentir et à offrir le sacrifice d'expiation pour ses péchés. Ils l'auraient pas traîné devant tout le monde. Ils n'étaient pas obligés de la traîner devant tout le monde. Hein? La loi lui disait que, à partir du moment où on la surprend en flagrant délit d'adultère, la personne, on la lapide sur les lieux même où elle était surprise en flagrant délit d'adultère. Et là, les pharisiens, ils l'amènent, ils la donnent en spectacle, ils dévoilent publiquement son péché devant tout le monde, ils la donnent en spectacle, pourquoi? parce qu'ils veulent passer pour des justes, pour des purs face à la loi de Dieu. Et c'est ça, c'est pour ça que Jésus est détesté par les pharisiens. Et c'est ce que le sermon sur la montagne met le focus, quoi. Vous vivez selon les apparences, mais vous êtes des hypocrites, parce que Dieu, c'est au cœur qui regarde. Et la bénédiction que Dieu accorde à ses enfants, c'est pas en fonction des apparences, c'est en fonction de la disposition du cœur de ses enfants. C'est en résumé le message du sermon sur la montagne. Et Jésus qui l'enseigne, eh bien, il ne passera pas à côté, quoi. Parce que non seulement les gens qui sont mal intentionnés sont insensibles au sort des autres, mais aussi les gens qui sont mal intentionnés sont négligents dans la façon de faire le travail, ou ils le font n'importe comment. Les pharisiens disent à Jésus, la loi nous ordonne de lapider de telles femmes. Et moi, je pense qu'ils n'avaient pas nécessairement lu la loi correctement, puisque si vous prenez le temps de lire dans Lévitique 20-10 et dans Deutéronome 22-20, il est clairement écrit que si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. La peine de mort, elle s'appliquait autant à l'homme qu'à la femme. Frères et sœurs, où est l'homme dans notre histoire? C'est pas deux personnes qui sont couchées ensemble en train de faire l'adultère de nuit, c'est en plein jour. Ce qui nous laisse supposer que les pharisiens savaient très bien que ça existait depuis un certain temps. Surprendre des gens en plein jour en flagrant délit d'adultère, la nuit, le soir, en plein jour, une température épouvantable, on pense pas, ou on attend. Mais que les pharisiens savaient qu'il y avait deux personnes qui commettaient l'adultère en plein jour, c'est qu'ils le savaient. Mais leur motif n'était pas pur, parce qu'ils fonctionnaient selon les apparences. Leur cœur était pourri, leur cœur était corrompu. Ce qu'ils voulaient, en fait, c'est pas que cette femme-là reçoive le pardon. C'était pas de lapider non plus la femme. Leur but ici, c'était de coincer Jésus pour le condamner et dire qu'il désobéit à la loi. Lui qui enseigne la loi, désobéit à la loi. Frères et sœurs, s'ils avaient été surpris en pleine activité sexuelle, comment un homme aurait-il pu s'enfuir? Le texte nous dit qu'ils ont été pris en flagrant délit. Pas en train de se rhabiller, en flagrant délit. On peut présumer qu'ils étaient tous les deux nus, quoi, quand ils ont été surpris. Où est l'homme dans cette histoire? Les pharisiens ont agi négligemment parce que leur but ne consistait pas à faire appliquer la loi, mais de mettre Jésus à l'épreuve dans le but de l'accuser. Dans leur désir de surprendre Jésus, ils avaient négligé ce point si important de lui amener aussi l'homme qui se trouve avec elle, démontrant ainsi que leur esprit était tordu. Et nous voyons cette négligence chez tous ceux et celles qui ont des choses à cacher, parce qu'ils ont un esprit tordu. Il y a quelques années, en Caroline du Sud, vous avez peut-être entendu dans les nouvelles, il y a quelques années, en Caroline du Sud, Suzanne Smith, une jeune femme de race blanche, appelle les autorités pour leur dire qu'un homme de race noire avait volé sa voiture avec ses deux jeunes enfants à bord. Alors, cela va déclencher une tempête médiatique. Et les recherches entreprises par les autorités policières les jours suivants captèrent l'attention de tout le pays. Mais certains observateurs avaient des doutes. L'histoire de la jeune femme semblait irréaliste et trop bien calculée. Certains craignaient que toute cette démarche ne visait qu'alimenter les tensions raciales dans la région. Et sa façon de parler et les émotions qu'elle dégageait, eh bien, semblaient superficielles. Finalement, quelques jours plus tard, on va retrouver la voiture au fond d'un lac avec les cadavres des deux enfants à l'intérieur. Rapidement, les autorités vont déterminer que Suzanne Smith avait tué ses propres enfants. Et elle fut confrontée parce qu'elle avait négligé certains points importants dans son histoire. On est en présence d'une femme ici, écoutez, qui était prête à sacrifier ses deux enfants pour démarrer une pagaille raciale dans son état, quoi. Incroyable, hein? Le cœur était tordu. En apparence, elle semblait aimer ses enfants comme, peut-être pas comme poison. Son cœur était tordu. Et dans son cœur tordu, elle avait négligé certaines choses. Elle avait agi n'importe comment pour essayer de faire condamner un innocent et déclencher finalement une émeute raciale là où elle habitait. Les personnes mal intentionnées se couvrent facilement de honte, verset 7, ici dans le texte. Non seulement les personnes remarquaient que suite à leur demande insistante pour que cette femme soit jugée, Jésus va répondre en disant que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et en leur disant de jeter la première pierre, il est simplement pourtant en train de leur répéter la directive qui est écrite dans Deutéronome chapitre 13 et 17, à savoir que les témoins de l'acte doivent être les premiers à lancer la pierre. Il est en train de leur dire, si vous voulez obéir à la lettre, à la loi, c'est à vous à lancer la première pierre à cette femme qui a été surprise en flagrant d'adultère, puisque c'est ce que la loi vous dit. Et c'est maintenant Jésus ici qui, par ses paroles, va mettre en lumière leurs mauvaises intentions. Connaissant la motivation ou la mauvaise motivation qui les pousse à agir ainsi, il les met au défi d'obéir eux-mêmes à ce que la loi dit. Il leur dit en fait ceci, c'est votre responsabilité de le faire puisque vous avez été témoin de son péché. Ensuite, leur conscience va faire le reste, le texte nous dit au verset 7. Lorsque Jésus va mettre en lumière la nature de leur démarche, ils vont se retirer un par un couverts de honte. Extraordinaire, non? Ils avaient le droit de lancer la pierre. Mais ils vont se retirer un par un. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que Jean, il prend le temps de dire « depuis les plus âgés jusqu'au dernier ». Je présume qu'à 60 ans, tu as commis plus de péchés qu'à 13 ans, quoi. Hein? Donc, les plus vieux doivent être plus honteux, ils sont partis les premiers, quoi. Si on dit s'il faut que ma liste de péchés apparaisse sur un mur, je suis disqualifié pour condamner cette femme-là. Mais il y a juste Dieu fait homme qui peut aller dire à ces gens hypocrites que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Humainement parlant, est-ce qu'un homme aurait pu dire une phrase semblable? Il y a juste Dieu qui est capable de lire dans les cœurs qui dit, écoutez, j'ai pas de problème moi avec ça. Mais que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. En voulant dire quoi? Vous voulez le lapider pour ce péché-là? Vous êtes aussi punissable d'être lapidé pour d'autres péchés que vous avez commis, mais qui sont dans votre cœur. Alors que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger en fonction des apparences, mais qu'on peut juger uniquement à partir de la parole de Dieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus la femme que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il reconnaît Jésus ici que ce qu'elle a fait, c'est mal. Et il lui fait réaliser que son pardon ne l'autorise pas à continuer à pratiquer son péché. Il la libère et il la laisse aller dans la joie et la certitude qu'elle est pardonnée. Il l'a restaurée en lui faisant grâce. Et je le répète, car Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Jean chapitre 3, les versets 12 jusqu'à 18, ça nous parle de cet amour de Jésus, cet amour de Dieu en Jésus-Christ qui vient sauver le pécheur et non les condamner. Nous avons un exemple de cette restauration dans 2 Samuel chapitre 12, et elle commence avec le prophète Nathan qui confronte David avec ce même péché, celui de l'adultère. Nathan n'amène pas, si vous lisez le texte ici dans 2 Samuel chapitre 12, Nathan n'amène pas, n'est pas là pour aller chercher David et le tirer, l'amener à comparaître devant le tribunal, non, il va confronter directement David avec son péché, et lorsque David confesse son péché et se repent, Nathan va prononcer le pardon de Dieu. Extraordinaire, hein? Pas extraordinaire, hein? Le roi, c'était le roi d'Israël. Il s'est approprié des droits qu'il n'avait pas, quoi. Il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Toutes les femmes qu'il voulait. Il a gardé ses yeux sur une femme mariée, quoi. Maintenant, Dieu pardonne tous nos péchés sans exception. Mais il y a souvent des conséquences aussi à nos péchés. Et si vous lisez les Écritures, souvent le péché d'adultère, c'est un des péchés que Dieu punit ou qui a des conséquences les plus graves. Quelqu'un qui a le sida, qui vient au Seigneur Jésus-Christ, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, qui devient chrétien, c'est pas parce qu'il devient chrétien qu'il va être guéri du sida. Il peut être pris à vivre avec son péché du passé. L'adultère, Dieu va être très sévère envers David puisqu'il était roi. Et c'est pour te rappeler la gravité de ton péché, David, dans ta famille, il va y avoir des conséquences sexuelles au niveau de tes enfants. Et quand on lit le texte, il y en a un qui a violé sa demi-sœur. Absalom couchait avec les femmes de son père sur le toit du palais devant tout le peuple. Quoi. Il y a eu des péchés sexuels incroyables dans la famille de David. David, je vais te montrer jusqu'à quel point c'est grave ce que tu as fait. Tu es un roi, tu es censé montrer l'exemple. Je vais te le montrer. Il y aura des conséquences dans ta famille. C'est pour ça qu'on peut pas prendre on ne peut pas prendre le pardon de Dieu en Jésus-Christ à la légère, parce que ça, il y a toujours des conséquences immédiates ou à long terme, des péchés qu'on a commis. Le but de toute confrontation et de toute discipline n'est pas de punir, mais de rétablir une situation, de restaurer une relation, et ce, dans une attitude de miséricorde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas proclamer la vérité, quoi. Ça veut pas dire qu'on doit, on ne peut pas dire que Dieu déteste le péché. On doit le dire, quoi. Pour sensibiliser les cœurs. Amener les cœurs à réaliser que c'est grave, quoi. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Le péché, il n'y a rien de grave dans le monde dans lequel on vit. Plus rien de grave. Alors, les gens ont besoin de savoir, de reconnaître la position de Dieu par rapport au péché, mais aussi la solution que Dieu, par rapport à la délivrance, la solution que Dieu offre par rapport à la délivrance du péché. Et je le répète, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, le privilège du chrétien, c'est la délivrance des péchés. Ce n'est pas juste le pardon de ses péchés en Jésus-Christ, c'est aussi la délivrance des péchés. Vous, autrefois, qui étiez esclaves du péché, vous êtes maintenant libéré de l'esclavage que le péché apportait dans votre vie, dit l'apôtre Paul dans Romains. Le privilège du chrétien. Sinon, on n'a aucune différence avec toutes les autres religions, parce qu'il n'y a aucune religion qui libère une personne de la puissance que le péché exerçait dans sa vie. Sauf le véritable christianisme, et ça se trouve dans une personne, la personne de Jésus-Christ. Vous êtes amen à ça? Frères et sœurs, avec qui nous identifions-nous dans cette histoire ce matin? Avec la femme? Avec les gens mal intentionnés qui sont venus amener cette femme? Ou avec Jésus? Le point que Jésus veut mettre en lumière ici, c'est que chacun d'entre nous, respectable ou non, surpris en flagrant délit ou non, animé d'un sentiment de supériorité ou pas, chacun de nous, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. N'y a-t-il pas un pharisien qui se trouve à l'intérieur du cœur de chacun? Combien de fois avons-nous dit intérieurement, au moins je n'ai jamais traité mes enfants de cette façon, au moins je n'ai jamais dit de telles choses à mon épouse, ou je ne peux pas croire qu'elle dépense autant d'argent. Me croirais-tu si je te disais ce qu'elle portait l'autre jour? Ou lui, si tu savais jusqu'à quel point il a une très haute opinion d'lui-même? Frères et sœurs, est-ce que c'est pas vrai qu'il y a un pharisien qui sommeille dans le cœur de chacun de nous? Et que ce soit l'esprit du pharisien qui va dominer, ou que ce soit l'esprit de Christ qui va dominer. Le conseil prend une décision, le pasteur prend une décision, on n'est pas d'accord. Vous serez prêt à le crucifier, l'esprit du pharisien. Alors que Jésus subit, accepte de subir l'injustice sans dire un mot. Parce que dans l'injustice qu'il subissait, il savait que c'était la volonté de Dieu. Et Hébreux nous dit que c'est par l'obéissance, c'est par la souffrance que Christ a appris l'obéissance et qu'il est donc devenu pour tous ceux qui croient en lui, l'auteur d'un salut éternel. Ouais, le modèle, il est là. Subis l'injustice, encaisse. Encaisse. J'ai encaissé plus que ça, moi, dit Jésus. Encaisse. Ça fait partie de la vie chrétienne. Encaisse. Dieu veut te montrer quelque chose. Parce que si tu n'acceptes pas des décisions qui vont à l'encontre de ta volonté, quand tu seras responsable, tu vas être un dictateur vis-à-vis de ceux qui n'accepteront pas tes propres décisions. Encaisse, tu es en formation. Jésus a subi l'injustice, et la Bible nous dit qu'il n'a point ouvert la bouche. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais il y a un pharisien qui sommeille en chacun de nous. Combien de fois nous est-il arrivé en privé ou en public d'avoir abaissé quelqu'un pour nous élever nous-mêmes? Nous ne cherchions peut-être pas nécessairement à nous élever nous-mêmes lorsque nous avions de telles pensées, mais c'est certainement ce qui se passait inconsciemment, et c'est en fait le péché qui correspond aux gens qui sont mal intentionnés. De même, combien y en a-t-il parmi nous ont craint que leur péché qu'ils gardent secret au plus profond de leur cœur soit un jour publiquement dévoilé. Quelqu'un a dit la chose la plus dévastatrice dans le monde. Quelqu'un a dit ceci. Pardon. La chose la plus dévastatrice dans le monde, et ce pour la plupart des gens, et particulièrement pour ceux qui occupent un ministère quelconque dans l'Église, ce serait de recevoir une lettre anonyme qui dit simplement « Tu es un hypocrite, moi je le sais, je connais ton péché. » Voilà pourquoi la plupart des péchés sont difficiles à vaincre, à cause de la honte qui l'accompagne lorsqu'il est dévoilé. Mais Jésus dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Quel est le point que nous voulons faire ressortir en prêchant sur les personnes mal intentionnées? Eh bien, nous amener à reconnaître le péché qui se trouve en nous, ensuite le confesser, si c'est le cas, le confesser, se repentir et s'approprier le pardon qui nous est offert en Jésus-Christ. Vous rappelez-vous, est-ce que vous connaissez Nathanaël Hawthorne, non? Je pense que ça a été traduit en français, ce livre-là. C'est un best-seller, en fait, c'est un chef-d'œuvre littéraire. Le titre, c'était « La lettre écarlate ». Ça vous dit quelque chose, « La lettre écarlate » Oui. L'histoire se déroule en Nouvelle-Angleterre et le personnage principal était Mme Prine, qui tombe enceinte et accouche d'un enfant hors mariage. Elle reçut comme condamnation de porter la lettre A, une grande lettre A, de couleur écarlate sur son vêtement, afin que sa honte soit visible pour tous les gens du village. Pourtant, elle ne révéla jamais le nom de celui qui avait couché avec elle. Et vers la fin du livre, son amoureux va se dévoiler lui-même. Il s'agissait du curé Dimmesdale, curé du village. Tout le temps qu'elle avait porté le A écarlate sur son vêtement, lui, il avait porté le A écarlate dans son cœur. Lui, c'était secret. Elle, ça avait été dévoilé. Lui, c'était secret. Cette femme avait été contrainte d'exhiber publiquement sa honte, tandis que lui, il avait dû la porter secrètement dans son cœur, avec la crainte que les gens découvrent son péché. Et avec la crainte que les gens découvrent son péché, elle avait été condamnée, elle avait été libérée. Et lui était encore esclave de ce qu'il avait vécu avec cette femme-là pendant tant d'années. À chaque fois qu'il voyait cet enfant, il se disait, « Ah, c'est moi le coupable. » Il pouvait le cacher aux hommes, il avait réussi à le cacher aux hommes, mais il ne pouvait pas le cacher à Dieu. Et à la fin du livre, finalement, il se manifeste pris par le remords et il finit par confesser son péché. Frères et sœurs, nous portons tous nos lettres publiquement ou secrètement dans nos cœurs. Seul Christ peut nous pardonner, disant « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Voilà pourquoi nous devons être prudents avant de juger qui que ce soit. Jésus n'aurait pu jamais réécrire ce moment de l'histoire si lui aussi avait tenu dans sa main une pierre. Et la même chose est vraie pour vous et moi. Si nous tenons des pierres dans nos mains ce matin, nous n'aurons aucune puissance pour faire une différence ou pour réécrire le futur des gens. Et nous serons incapables de représenter Jésus dans le monde. Et ce qui est extraordinaire dans le texte qu'on vient de lire, il était plus facile pour les pharisiens de lancer des pierres qu'à pardonner. Les frères et sœurs, dans l'Église de Jésus-Christ, ça s'est vu aussi à différentes époques, avec la mentalité légaliste. Les gens avaient plus de facilité à lancer des pierres sur quelqu'un qui ne vivait pas comme eux que de lui pardonner. Que de lui pardonner son péché et sa misère. Comment pouvons-nous représenter le royaume de Dieu s'il est établi sur une fondation de pierre et s'il y a du non-pardon dans nos cœurs? C'est tout simplement impossible. Voilà pourquoi nous devons arriver à pouvoir pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Il est évident que ce n'est jamais facile et cela signifie que nous devons apprendre à surmonter les conflits que nous avons vécus ou des choses personnelles qui se sont incrustées profondément en nous au cours de notre vie. Mais si c'est difficile, c'est pas impossible. Et souvent, les difficultés à laquelle on était et qui nous ont marqués dans notre jeunesse, même dans notre enfance, souvent aussi, c'est parce qu'on est incapable de pardonner. Je vais vous raconter rapidement quelque chose que j'ai vécu à l'Armée du Salut à Québec, à l'aide de la famille. Il n'y a pas d'enfants ici? Un jour, je suis dans mon bureau, ma secrétaire, elle vient me voir en courant, elle me dit, « Capitaine, prenez le téléphone, j'ai une femme au bout de la ligne qui veut se suicider. » Alors, je prends le téléphone, et puis, bon, une femme, dans sa façon de parler, je peux évaluer son niveau de social. Et elle a trouvé, j'ai dit, « Vous avez eu mon téléphone? » « Ah, j'ai pris le bottin, je suis tombé sur l'armée du salut, première lettre, ah, baf, service d'aide à la famille, hein? Ah, on est en premier, quoi, on n'est pas, c'est pas Z, c'est pas... » Alors, je suis tombé sur ton numéro, puis je t'appelle, mais vraiment, elle parlait, quoi, hein? Alors, j'ai dit, vous m'appelez pourquoi? Ben, elle dit, parce que je vais me suicider, puis je voulais dire à quelqu'un avant de le faire. Ah? Ah, ben, j'ai dit, écoute, c'est la première fois qu'une personne qui veut se suicider m'appelle. J'ai dit, c'est pas courant. Mais, j'ai dit, j'aurais aimé ça voir au moins une fois, vous voir une fois, avant que vous passiez à l'acte. Elle me dit, dis-moi où tu habites. Elle dit, dis-moi où tu es, toi. Je vais aller te trouver. Parle comme ça. Je lui donne mon adresse. Je raccroche la ligne. Moi, j'ai dit, je ne la verrai jamais, cette femme-là. Au bout d'une demi-heure, j'ai ma secrétaire qui vient me voir en courant. Elle me dit, capitaine, la femme que vous avez au téléphone tantôt, elle est arrivée. Alors, je vais la chercher, je la fais rentrer dans mon bureau. Et j'ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous voulez vous suicider? J'ai dit, j'aimerais ça au moins savoir pourquoi. Elle m'a dit, on vient de diagnostiquer une cirrhose du foie, j'ai 36 ans, je suis condamné, j'ai quelques mois à vivre. Et j'ai dit, qu'est-ce qui a provoqué la cirrhose du foie? Et là, elle me raconte sa vie, mais pendant 2 heures, quoi. Une vie d'enfer, quoi. Une vie d'enfer. Et moi qui avais fait la faculté, j'étais comme ça sur mon bureau, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à cette femme quand elle aura fini de parler, quoi? Qu'est-ce que je lui dis? Quelle solution lui donner, quoi? Elle avait commencé à être abusée par son père à l'âge de 5 ans. Elle avait quitté la maison à l'âge de 15 ans. Elle avait vécu dans la rue. Quand je l'ai rencontré, elle buvait sa caisse de 24 bières par jour et 2 bouteilles de whisky. Et ça depuis l'âge de 22 ans, 36 ans. On comprend qu'elle avait une cirrhose du foie. Au niveau sexuel, ça rentrait dans des détails parce que les jeunes, elle avait tout essayé ce que vous pouvez imaginer. Et son problème, c'est qu'elle revenait toujours avec son père. Toujours. Je ne peux pas raconter les détails, mais elle revenait toujours avec son père dans son lit. Alors là, elle était plein de haine, fâchée. Elle me dit, qu'est-ce que tu ferais, toi? Qu'est-ce que tu ferais, toi? À ma place. Qu'est-ce que tu ferais? J'ai dit d'abord, moi, je pardonnerais à ton père. Ah, je pensais qu'elle était m'arracher la tête. Tu dis quoi? Si je fais une cirrhose, si j'ai vécu toute cette vie d'enfer, c'est que à cause de lui. Hey, j'ai dit, ton père, c'est un malade. Puis pendant toutes ces années, il tirait son plaisir. Aujourd'hui, tu sais pas où il est, mais il souffre pas. Et toi, regarde. Regarde, ça fait 14 ans que c'est terminé ton enfer, et regarde. J'ai dit, c'est pas la boisson qui est en train de te tuer, c'est le non-pardon qui est en train de te tuer. C'est ça qui est en train de te tuer. Alors, elle dit, jamais, jamais, jamais je vais lui pardonner. Et j'ai dit, il y a plus que ça. C'est quoi? Toi aussi, tu vas devoir demander pardon. Pardon à Dieu. Parce que je comprends que ton père t'a abusé de 5 à 14 ans. Mais après, il n'y a personne qui t'obligeait à retourner dans le lit de ton père quand tu as quitté la maison. C'est parce que toi aussi, tu y trouvais son plaisir. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour ça qu'elle revenait avec son père. Tu n'as pas capable d'avoir ailleurs ce que son père lui donnait. Ça vous donne une idée comment c'était, ça peut être mêlé, hein? Ouais. Je dis, toi aussi, tu dois demander pardon à ça. À Dieu. Parce qu'à un moment donné, c'est devenu ta misère et devenu ton péché. Ah, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Je dis, écoute, Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à tous ceux qui l'ont massacré, qui se sont moqués de lui? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Elle n'était pas chrétienne, mais j'ai posé une question. J'ai dit, qu'est-ce que Jésus fait de mal dans sa vie? Elle ne me dit rien. Je dis, écoute, si tu pardonnes, on a une délivrance dans ta vie. Il y a eu un combat pendant 2 heures avec elle dans le bureau. Et finalement, écoutez, elle m'a dit, OK, je suis prêt. Je suis prêt à pardonner. Je suis prêt à demander pardon. On a pris nos mains ensemble, elle était d'un côté du bureau et de l'autre, et on a prié. Et elle était en larmes, et ça tombait. Mais c'était sincère, sa prière de repentance. C'était sincère aussi, son pardon vis-à-vis de son père. Et elle est partie. 3 mois après, et je dois vous dire que c'était une femme qui était en surpoids, mais en très grand surpoids, quoi, quand je l'ai rencontrée. 3 mois après, je me promène et qui je vois dans un couloir arriver une femme. Et qui a fondu. Et elle me dit, bonjour, vous me reconnaissez? Je dis, absolument pas. C'est la première fois qu'on se voit. Ah, ben, elle dit, je suis la femme qui est venue vous rencontrer il y a 3 mois. Ah! Elle dit, qui voulait se suicider. Ah oui, oui, je vous reconnais. Elle dit, je viens simplement vous annoncer une bonne nouvelle. Elle dit, j'ai plus de cirrhose du foie, tout est disparu. Je suis guéri. C'était pas la boisson qui était en train de la tuer, c'était le non-pardon. Le non-pardon. Frères et sœurs, sans le pardon plus profond de notre cœur, il nous est impossible de parler de Jésus. Et nous ne pouvons pas non plus dire à personne que nous lui appartenons. Les gens qui se contentent de parler seulement de Jésus, mais qui ne vivent rien avec lui, Jésus est clair dans Matthieu, font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes maître, maître. Voilà ce qui les préoccupe le plus dans leur vie. Cependant, les gens qui représentent vraiment Jésus sont ceux qui se baissent et qui écrivent dans le sable. Ils réécrivent la vie des gens. Ils parlent des bontés du Seigneur, peu importe ce que les gens ont fait ou le péché qu'ils ont commis. Et frères et sœurs, on ne devrait jamais, jamais juger une prostituée à l'extérieur. On devrait remercier le Seigneur d'avoir été épargné de faire de la prostitution dans nos vies. 8 femmes sur 10 qui viennent voir à l'armée du salut au service de la famille avaient été abusées sexuellement. 8 femmes sur 10. Prenez le temps d'aller voir les prostituées. Prenez le temps de leur demander ce qui les a amenées à se faire prostituer. Qui confondent le sexe avec l'amour. Qui confondent le sexe avec l'affection. Et elles vont vous dire pourquoi ils sont là. Parce qu'il y a un père, un oncle, un frère qui les a abusés quand elles avaient 4, 5, 6 ans. Oui. Remercions Dieu de ne pas avoir vécu ces terribles expériences, d'être venu au monde dans un milieu chrétien, de ne pas avoir vécu ces terribles expériences qui se passent dans le monde. Le drogué, allez prendre un temps avec le drogué. Oui. Oui. Avec Walter et Isabelle, tantôt dans la voiture, il y a un reportage qui est passé sur France 2, France 3 cette semaine. C'est quoi le titre, Isabelle, de l'émission? Oui. On parlait du danger de la boisson chez nos jeunes aujourd'hui. On a dit que la génération qui vient de passer, c'était des consommateurs de drogue. Mais la boisson est tellement bon marché aujourd'hui que la prochaine génération, ça va être des esclaves de la boisson. Et ce reportage-là nous montrait des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans, mais qui cuvaient. Hein. Et derrière ça, on va quand même dénoncer tous ces brasseurs et ces responsables d'alcool qui fabriquent du genièvre à saveur de chocolat, qui fabriquent du genièvre à saveur de vanille, hein, qui goûtent le bonbon, qui a pourtant 20 % d'alcool là-dedans. Et que les jeunes se défoncent à se taper une bouteille dans une gorgée, quoi. Il y avait une fille de 24 ans, qui nous a monté la photo avant, la photo après, qui est devenue alcoolique, quoi. Quelle misère, quoi, qui n'est pas capable de s'en sortir, quoi. Quelle misère dans laquelle elle se trouve, quoi. Voilà pourquoi on ne peut pas juger ces personnes qui vivent dans la misère, mais qu'on peut remercier le Seigneur d'avoir été épargné de tout ça. Laissons le soin aux autres de juger parce que nous sommes appelés à vivre une loi qui est supérieure à la loi de l'amour, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Cela correspond à être capable d'accepter ce que nous ne pourrions pas accepter naturellement. Cela correspond à être capable d'appeler pur ce que d'autres perçoivent comme étant impur. Et cela comporte aussi d'être capable de recevoir avec espoir, ce que d'autres considèrent comme étant impossible à récupérer. Il n'y a pas d'autre évangile qui peut changer le cœur de l'homme. Ce ne sont pas nos vêtements, ce ne sont pas la mémorisation des Écritures, ce ne sont pas nos grosses Bibles, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu dans nos cœurs qui feront la différence. Si vous avez des pierres dans vos mains ce matin, c'est le temps de permettre à Jésus de les enlever de vos mains afin que vous puissiez vraiment le représenter ou représenter son amour dans cette génération, comme Pierre dit, perverse et corrompue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.